OK, on s'en va justement dans 2 Timothée chapitre 1. On va lire les versets 9 à 11. Ça va être notre passage de départ, mais après ça, on va aller à quelque part d'autre pour le reste du message. Donc, 2 Timothée chapitre 1, versets 9 à 11. Avec le verset 10, là, on va compléter à travers le mois l'ensemble des références dans le Nouveau Testament sur l'immortalité. Il n'y en a pas beaucoup, fait qu'on va être capable de toutes les couvrir. On a vu la semaine passée dans Romains 2, là on est dans 2 Timothée, il y en a d'autres aussi dans le Nouveau Testament. Quand on va être rendu à la fin du mois d'octobre, si on se rend, si le Seigneur ne revient pas avant, on va avoir couvert toutes les références néo-testamentaires sur l'immortalité. Donc, on lit 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Ah, j'ai dit verset 11, regardez verset 12 aussi. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Quel beau passage d'Écriture. On va prier. On te remercie, Seigneur, que tu es le Dieu de la vie, le Dieu qui a réduit à l'impuissance la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile de notre salut, la bonne nouvelle de la croix, de la résurrection. On veut vraiment te célébrer ce matin pour ça, cette grande délivrance, la seule vraie délivrance. La délivrance éternelle qui est invincible, qui est incomparable. Et vraiment, Seigneur, on se réjouit dans ce salut ce matin. Ah, s'il y en a ici qui ne connaissent pas encore cette délivrance, ce salut, cette liberté qui est en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, on te prie que tu convainques leur cœur que c'est leur plus grand besoin. Et pour nous qui sommes ici, tes enfants rachetés par le sang de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Ah, Seigneur, ouvre nos yeux, qu'on contemple d'une façon fraîche et nouvelle ce grand salut merveilleux, qu'on contemple notre Sauveur. Seigneur, merci qu'on peut être rassemblés ici. Seigneur, ce matin, on veut considérer notre foi dans cette délivrance que tu promets. Sonde nos cœurs, dirige Saint-Esprit, afin que tu fais ce que toi tu veux faire dans ce temps qu'on prend maintenant. On te prie au nom de Jésus. Amen. Là, si vous ne voulez pas que je devienne hyperactif, j'ai un café ici. Je pense que c'est le tien.
Moi, mais...
En tout cas, fais ce que tu veux avec, là. Mais je vais pas l'accrocher, c'est pour ça, moi, que mes grands s'imagrient. Vous savez comment que c'est, hein? Les latinos, c'est ça qui arrive, hein? Le sang latin. Donc, je le disais, c'est une référence à l'immortalité. On va toutes les couvrir, Dieu voulant, dans le mois d'octobre. C'est une merveilleuse référence qu'on a ici, spécialement le verset 10, là, que je vous relis, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Cette référence nous enseigne que l'œuvre de la croix et de la résurrection, non seulement ont vaincu la mort, certaines versions disent l'ont détruit, c'est le mot katargeo, c'est traduit de différentes façons, ce mot-là, dans le Nouveau Testament. L'idée, c'est complètement mettre hors de portée de nuire, réduit à l'impuissance. Donc, non seulement il y a ce côté-là, il a réduit à l'impuissance la mort, mais en plus, il a mis en évidence, mis de l'avant, la vie puis l'immortalité. Ou pour le dire autrement, la vie éternelle, la vie qui ne cesse jamais. Et ça, c'est la merveilleuse délivrance que chaque enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu cette délivrance. Vous avez expérimenté, au moment de votre salut, lorsque vous avez placé votre foi dans l'œuvre parfaite de Christ, c'est ce que vous avez connu. Hein? Parce que ça dit dans Hébreux 10, ça dit par une seule offrande, il a rendu, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, ça c'est notre texte de base que je veux qu'on considère pour parler de la délivrance immortelle. Quand ça parle ici de la double, ici, qui a réduit la mort à l'impuissance puis mis en évidence la vie et l'immortalité, ça c'est la délivrance de la croix, la délivrance de la résurrection. Et quand on est un enfant de Dieu, à cause qu'on a trouvé cette délivrance, puis là ça peut paraître contradictoire, on recherche cette délivrance. Ouais, mais si on l'a trouvée, pourquoi qu'on la chercherait? OK, on l'a trouvée au moment de notre salut, mais c'est la quête de notre vie de toujours s'abreuver, se nourrir de cette délivrance. OK? C'est une délivrance qui est une fois pour toutes le pardon de nos péchés, mais dans notre vie, dans le présent, on a le péché qui nous enveloppe si facilement et on cherche constamment, si on connaît Jésus comme notre sauveur, on a goûté que le Seigneur est bon, on n'en a jamais assez de cette liberté, on n'en a jamais assez de cette délivrance du péché. Oui, on a été pardonné pour nos péchés passés, présents, à venir. La pénalité de notre péché a été payée pour. Mais en tant qu'enfant de Dieu, dans notre quotidien, cette puissance du péché qui veut toujours nous rattraper, puis la Bible dit nous envelopper, ah, on a ce désir, on a dans nos cœurs vraiment un ardent désir d'être délivré de cette puissance du péché. Et ce que je veux vous partager ce matin par rapport à ça, okay, le titre de mon message, je l'ai dit clairement, là, j'ai dit pas mal d'affaires autour, mais c'est rechercher la délivrance immortelle. Rechercher la délivrance immortelle. Une délivrance où est-ce qu'il n'y a plus de mort? La mort, c'est la séparation. Une délivrance immortelle, c'est une délivrance où est-ce qu'il n'y a plus aucune trace de séparation, de mort. C'est ça l'idée de mettre de l'avant la vie puis l'immortalité. C'est une délivrance qui est totale. Il n'y a plus de mort dans cette délivrance. Juste de la vie, la liberté. Et je suis content que dernièrement, juste un petit témoignage personnel, le Seigneur m'a donné des messages pas mal dans mes temps personnels avec lui. En passant, c'est pas le but de mes temps personnels avec lui d'avoir des messages, mais des fois, ça donne que le Seigneur m'en donne. Puis en passant, un message, c'est une idée. Une fois, un prédicateur, je pense qu'il avait à peu près 90 ans, puis j'avais prêché un message avant lui. Ça, c'est gênant, ça, parce que tu sais, t'es là, t'es un petit rookie là, qui connaît rien. Puis il dit, ah, merci frère pour ce message. Puis il dit, je vais penser à cette pensée. Puis il dit, parce que un message, c'est une pensée. C'est vrai quand on résume ça. Puis la pensée de ce message m'est venue dans mon temps personnel avec le Seigneur. Puis bon, après, je m'assis, puis là, je bâtis là-dessus. Là. Tu sais, je ne prépare pas mon message dans mon temps personnel. Mais boum, des fois, le Seigneur me donne de même des joyaux. J'ai juste le privilège, ça donne, de vous le partager. OK? Mais je veux juste dire un petit mot là-dessus. La parole est toujours d'actualité. La parole est vivante, elle nous interpelle, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement pour le prédicateur, c'est pas juste pour quelqu'un qui prépare des messages. C'est tellement important que le Seigneur nous donne un message pour notre cœur à chaque jour. Là, je dis pas préparer un message pour 1, 2, 3, mais qu'il donne quelque chose pour notre cœur. C'est ça que le Saint-Esprit, hein, la parole vivante, est utilisée par l'Esprit vivant, l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, pour parler à nos cœurs. Donc, en avez-vous eu dernièrement des messages du Seigneur, quelque chose que le Seigneur met sur votre table demain et dit, tiens, déguste ce mets savoureux de ma bonté qui vient directement de ma main. Est-ce que dernièrement c'est arrivé? Est-ce que ça arrive aussi régulièrement? Parce que c'est ça qui nous fait passer à travers des moments comme on vit en ce moment. Quand on entend la voix du Seigneur, quand on se nourrit des paroles de la vérité. C'est vital, mes amis. C'est ça qui nous fait passer au travers de l'épreuve dans notre foi, puis qui nous la fait voir comme un sujet complet de joie, puis qui permet qu'on puisse passer à travers sans faillir en rien. Un bon passage qu'on a considéré les deux derniers mercredis dans Jacques 1. Bon message à méditer. Si vous voulez méditer, c'est un beau passage sur l'épreuve, puis tout ce que ça produit. Jacques 1, 2 à 8, là. Il y a du bon stock là-dedans, mes amis. Maintenant, j'ai commencé ici dans 1 Timothée, mais le message, on va s'arrêter spécialement dans le livre d'Hébreux, et spécialement dans le chapitre 11, C'est là qu'est mon verset le plus important duquel tout ce que je veux vous partager est parti. Mais aussi, on va déborder un peu jusqu'au chapitre 13. N'est-ce pas drôle aussi, je parlais avec un frère dernièrement, pour ne pas le nommer, Pasteur Burns. Puis le Seigneur m'a dirigé vers Hébreux 11. Tu sais, on dirait que le Seigneur a de la suite des idées avec Miché, avec Hébreux. Je pense que le Seigneur parle à son peuple. C'est merveilleux ça, mes amis. C'est précieux. Et donc, j'aimerais que tout le monde ensemble ici, par la foi, on se recherche la délivrance immortelle. Vous allez voir, quand je parle de délivrance immortelle, c'est en contraste avec une autre sorte de délivrance. Mais je ne vais pas me devancer. Rappelez que la semaine passée, on a parlé de vivre sur terre à la lumière de l'éternité, n'est-ce pas? De vivre avec une perspective éternelle, celle qui change tout, qui nous donne une appréciation des choses, qui est unique, qui nous fait répondre à nos circonstances d'une façon unique. Quand on a la lumière de l'éternité sur le quotidien, vivre sur la terre à la lumière de l'éternité, bien là, on continue dans cette veine. Quand on vit de même, on cherche une délivrance qui n'est pas d'ici-bas. C'est de ça qu'on va parler ce matin. La délivrance que juste Dieu donne. Et juste un petit dernier mot d'introduction. Quand on recherche cette délivrance, on la recherche. Non seulement on ne la recherche pas ici-bas, mais on la recherche en Jésus-Christ. Ça a été lu tantôt, un des versets, c'est « Béni soit le Dieu notre Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle » dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, on a tous les trésors, les bénédictions de la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous a donné, en Jésus-Christ. Ça, ça nous parle de la merveilleuse doctrine de notre union avec Christ. Tout ce qui est en Christ, nous l'avons. Nous sommes morts au péché, vivants pour lui, parce qu'on est en lui. On est identifié à Christ dans sa mort, dans sa résurrection. C'est notre nouvelle identité. Maintenant, quand on dit « je suis un chrétien », c'est ça mon identité. Je ne suis pas quelqu'un qui est colérique, qui a de la misère à être content, qui... ça, c'est pas moi. Ça, c'est ma nature pécheresse, mais ma nouvelle identité, c'est Jésus-Christ. En lui, je suis une nouvelle création. Je ne suis plus identifié à mon péché, à mon passé, à mes échecs, à mes erreurs. Je suis identifié à celui qui est ma victoire, qui est ma sagesse, qui est mon tout en tous. C'est ça mon identité. Et c'est ça la délivrance qu'on a. C'est déjà commencé, puis c'est pas fini. Le meilleur est à venir. C'est ça qu'on a en Jésus-Christ. C'est de ça qu'on va parler ce matin. J'espère que j'ai un peu « wet your appetite ». C'est comme ça qu'on dit « wet your appetite ». J'ai mouillé votre appétit. J'espère que j'ai mouillé votre... C'est bizarre, ça. Oh! Oh! OK! Wow! Merci, docteur Gosselin. Excusez, pardon.
Un vieux
baby. Ah! OK, ben, on apprend tous les jours, hein? J'allais dire qu'ils étaient bizarres, ces Anglais, mais c'est moi qui comprends rien. Faut qu'ils viennent avec un manuel d'explication, ces chers anglos, qu'on aime donc. Amen. OK. Là, on est rendu au vif du sujet. Venez avec moi dans Hébreux 11, et on va considérer les trois caractéristiques de ceux qui cherchent la délivrance immortelle. Et pour ce faire, comme dirait M. Côté, le Saint-Sacrement n'est pas exposé. Je vais enlever mon veston parce que j'ai chaud. OK. On va commencer, je vais lire quelques versets dans Hébreux 11. N'est-ce pas merveilleux le chapitre 11 d'Hébreux? Wow! Si vous ne l'avez pas lu dernièrement, là, je veux dire, quand on lit ça, c'est comme, tu sais, des fois on prend de la vitamine C le matin ou de la vitamine D, là c'est comme si tu prends le pot au complet, là, puis tu te... T'es super boosté après. En tout cas, moi, ça a fait ça, là. C'est vrai que je suis un peu hyperactif, c'est bon, mais bon. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi, OK, ici, bon, ça parle en général des héros de la foi, là. C'est un petit résumé en plein milieu du chapitre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et regardez aussi, ça c'est le verset principal pour tout le message aujourd'hui, verset 35b. On va quand même commencer à A, là, mais des femmes recouvrant leur mort par la résurrection, et là, regardez bien. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La première caractéristique de ceux qui recherchent la délivrance immortelle, c'est qu'ils n'acceptent pas de délivrance vaine, temporaire, ici sur terre. Okay? Par la foi, ils n'ont pas accepté la délivrance qui leur était offerte. Okay? Délivrance temporaire. Okay? Juste vous donner un exemple. Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait une délivrance qui leur était offerte. « Ah, fais juste plier le genou, puis tu ne vas pas aller dans la fournaise ardente. » Ils ont refusé ça. Ils n'ont pas accepté cette délivrance parce qu'ils espéraient une meilleure. Okay? Donc, les versets qu'on a lus, tant les versets 13 à 16, mais surtout ici, le verset 35, où est-ce qu'il dit « Ils n'acceptèrent pas afin de... » Ok. Ça montre que littéralement ici, il était question de rechercher la délivrance que Dieu seul peut donner. La délivrance surnaturelle. Non celle qui est d'ici-bas, mais celle que le monde ne peut pas offrir. Mais écoutez bien, ils ont refusé de compromettre leur foi. Il y a un prix à la foi. Ils ont refusé de compromettre leur foi, leur obéissance, par rapport à la corruption que le monde offrait. Je viens de vous donner l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Certainement, c'est pareil avec Daniel. Ah, juste prier. Tu peux prendre un break de prière pour un mois. Tu peux prendre un break de chanter pour un mois. Non, c'était non négociable. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que c'était une délivrance temporaire. Ils savaient que Dieu pouvait le délivrer, donner la vraie délivrance. Savez-vous que la fin des apôtres du Nouveau Testament a tout terminé de la même manière? Ils sont tous morts. Pour ne pas avoir accepté la délivrance d'ici-bas, compromettre leur foi parce qu'ils ont voulu honorer leur Seigneur. Comme on l'a lu, ils savaient en qui ils avaient cru. OK? Comme je l'ai dit ce matin, avant le temps de prière, il y en a un qui n'est pas mort de cette façon-là, mais il aurait dû. OK? Si vous êtes un jour plongé dans de l'eau bouillante, vous n'êtes pas supposé sortir vivant. Pas dans de l'eau, dans l'huile bouillante. Parce que ça colle, tu sais, puis je veux dire, tu meurs de... OK? Mais Dieu, par un miracle, a permis que Jean, l'apôtre Jean, qui a été comme ça plongé, il ne meurt pas, puis il est mort sur l'île de Patmos. Parce que Dieu n'avait pas fini avec lui. Il voulait qu'il écrive l'Apocalypse. C'est là qu'il écrit le livre d'Apocalypse. Ça donne dans la providence de Dieu qu'hier, j'ai écouté un petit film, filmette, en tout cas, ça dure à peu près une heure, l'histoire résumée de Richard Wurmbrand. Si vous parlez roumain, vous allez aimer ça parce qu'il y a plein d'affaires en roumain. Là, ma femme a dit, ouais, mais là, j'écoute ça le soir, puis c'est pas graphique, tu sais, même, je veux dire, tu vois pas du sang, puis tout ça, mais c'est sûr que le gars se fait torturé pour Christ, mais c'est filmé de manière à ce que, tu sais, tu vois, mettons un gars qui donne des coups de bâton, mais tu vois comme ça, mais tu vois pas la personne qui a le coup, puis, tu sais, je veux dire, c'est correct la façon que c'est fait. Mais ça a donné que j'écoutais ça hier, puis j'ai pas fait de cauchemars. Où est-ce qu'on voit que, littéralement, c'était ça. Ces gens-là se faisaient constamment offrir une délivrance temporaire. Et voici comment ça marchait. Donne-moi des noms, puis tu peux sortir de prison. Monsieur Wurmbrand est resté 14 ans en prison, puis c'était pas une prison 4 étoiles comme on a en ce moment. Des conditions. Il a passé à mener 3 ans tout seul dans solitary confinement, dans le trou, là. Ça, je sais pas, vous savez, mais tu vires fou. Hein? Maintenant, là, ils ont sorti ça. Moi, je sais, je suis dans le milieu des pénitenciers. Ah, c'est pas bon pour la santé mentale. Et puis, ils disent pour 30 jours, c'est pas humain, c'est trop. Imaginez-moi, 3 ans. Puis, ils témoignent là-dedans. Ils disent, si ça avait pas été Dieu, je serais viré fou. Puis, il était tout seul, là. Il y a sa femme puis son fils qui a pas vu tout ce temps-là pendant 14 ans. Il y avait juste à dire les noms des chrétiens avec qui il était parce que tout ça a commencé. Il a eu le courage. Puis c'est drôle parce que ça commence, puis là, il dit, ah, mais là, si je pense à sa femme, elle dit, j'ai pas besoin d'un coward comme Marie. Excusez, j'ai écouté en anglais. J'ai pas besoin d'un... Aidez-moi. D'un large. J'ai pas besoin d'un large comme Marie. Fait que là, il se lève, puis il était dans le pas le parlement, mais le congrès roumain, OK, où est-ce que c'était toute la propagande, « Oh, oui, les églises, maintenant, c'est tout beau, puis les communistes les acceptent, mais c'était tout pour les acheter, puis tout ça, puis ça aussi, c'était une fausse délivrance. » Fait que là, il réussit à avoir le micro, puis il parle, puis mon ami, il se met à parler de Christ, puis que c'est lui la délivrance, puis tout ça, puis ça lui a mis dans le trouble, et c'est pour ça que la police secrète est venue chercher, il a fini par être là, puis 14 ans, tout ce qu'il voulait, c'était des noms. Puis à cause de ça, il y a des gens qui sont morts. Même chose, il parle d'un autre pasteur là-dedans, que son fils a été tué devant ses propres yeux pour finir par y faire donner les noms. Puis le fils a dit, « Papa, meurs pas comme un traître. J'aime mieux mourir pour Christ. » Il dit, « Dis pas des noms. » Wow!
Il affecte les
autres. Oui. Puis en passant, ces gens-là qui étaient dans une ville, où est-ce que... Tout avait été reconstruit, c'était tous des blocs appartements, t'sais, tout le monde pouvait se voir, puis c'était des murs en carton. Okay? Ils chantent, ils se rassemblaient pareil, c'était des églises clandestines, parce que là, ils n'étaient plus dans l'église officielle. Ils se rassemblaient pareil, puis ils chantaient pareil, puis ils louaient le Seigneur avec des baptêmes, parce que Christ était plus précieux pour eux autres. Ils savaient que Dieu avait une délivrance pour eux autres. Ils auraient pu se compromettre, mais voyez-vous, c'est de ça qu'on parle. Ils n'ont pas accepté la délivrance temporaire. Ian Thomas a dit, Major Ian Thomas, un Major dans l'armée, je ne sais pas ce que ça fait là, parce que dans l'armée anglaise, en tout cas. Major Ian Thomas a dit, il y a toujours une alternative raisonnable à la foi. C'est ça ici. Accepter une délivrance temporaire, vaine, OK, du monde. J'ai pris le temps de vous expliquer ça parce que je pense que de plus en plus on est rendu là. En tant que chrétien aujourd'hui. On voit des exemples concrets de ça de plus en plus. Vous savez que en ce moment, une grosse chose, personne n'ose parler, dénoncer des injustices, des mensonges. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre leur job. Spécialement si on est dans des milieux comme les milieux hospitaliers, les milieux d'enseignement, les milieux professionnels en général. C'est pas des farces, puis c'est pas une mince affaire. Je veux dire, c'est ta famille qui dépend de ça, là. Pas une. Ah, oh, ouais, tu sais, je vais faire. Vous avez entendu dernièrement d'un policier qui a parlé. Lui, il avait une business puis tout ça, mais le gars, il a mis la croix sur 100 000 piastres par année puis des bénéfices puis tout, parce qu'il a dit, je veux pas, dans ma conscience. C'est le genre d'exemple. Puis c'est même pas un chrétien, lui, mais c'est pour vous dire, c'est des choix déchirants, mais je pense que c'est ce qui est devant. Quelle délivrance qu'on cherche? Mes amis, ce n'est pas un message théorique que je vous prêche ce matin. Si on est ici, dans la foi qu'on fait confiance que Dieu, peu importe ce qui arrive, il va s'occuper de nous autres. Parce qu'on cherche une délivrance immortelle. Parce que Satan voudrait nous faire peur. Puis dire, si tu ne prends pas mon moyen, si tu ne prends pas ma délivrance, ça va être terrible, ça ne va pas marcher, puis tu ne seras pas un bon témoignage. Non, ce que les gens ont besoin de voir, c'est pas... Nous qui prennent nos sorties de secours, ils ont besoin de voir Christ à travers les enfants qui font confiance que lui va donner la délivrance. Pourquoi qu'on se rappelle de Shadrach, Meshach et Abednego? Pourquoi qu'on se rappelle des apôtres? Pourquoi qu'on se rappelle de Daniel dans le fosse aux lions? Parce qu'ils ont refusé la sortie de secours que le monde leur offrait. Puis pourquoi les gens vont se souvenir de certains chrétiens de nos jours? Parce qu'ils vont avoir vu Christ de cette façon-là. Nous, on n'est rien. Mais les gens ont besoin de voir des gens où est-ce que Christ est vrai dans leur vie. Puis que ça se montre quand ils refusent, ils n'acceptent pas la délivrance qu'il leur est offerte. Parce que ce n'est pas une délivrance. On n'a pas lutté jusqu'au sang. Mais la pression monte. Et force est de constater que déjà trop de chrétiens, puis même d'églises, cèdent à la petite pression. Mais attention, les petits compromis mènent à des grands désastres. Puis prenez en note Jérémie 12, 5, quand ça dit que si tu as eu de la misère dans une contrée paisible, qu'est-ce que tu vas faire sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Si tu as de la misère à courir à pied avec ceux qui sont à pied, qu'est-ce que tu vas faire avec les chevaux? Autrement dit, c'est une image pour dire, si tu fais quand c'est le temps que la pression est petite et que tu te compromets, qu'est-ce que tu vas faire quand elle va être forte? Les petits compromis mènent à des grands désastres. Et je pense pour ça qu'on est appelé solennellement, en considérant Hébreux 11, à suivre les traces de nos ancêtres qui n'ont pas accepté la délivrance temporaire. Puis regardez le verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Il y a différents exemples de ça dans le livre d'Hébreux, comme Moïse, qui n'a pas regardé les richesses d'Égypte parce qu'il avait les yeux sur la rémunération, les richesses de Christ étaient plus grandes pour lui. L'idée, on regarde à ce qui est meilleur, à ce qui est invisible, la vraie délivrance. Mes amis, c'est juste par la foi qu'on peut voir ça. C'est pas avec la logique humaine, avec la pensée humaine. C'est ce que les enfants de Dieu recherchent, par exemple. Il ne faut pas tomber dans le piège, mes amis, d'accepter la délivrance temporaire que le monde nous offre. Et j'irai plus loin. On a besoin d'intercéder dans l'amour, dans la compassion pour ceux qui sont sur le bord de céder ou peut-être qui ont même déjà cédé à cette pression. Qui ont perdu les yeux de sur la rémunération, celle de Dieu. Maintenant, le secret, la puissance pour arriver à ça est certainement pas en nous-mêmes. Les apôtres, on les admire, mais il n'y avait pas plus de courage que nous. Quand ils ont eu les menaces, Dieu va leur menacer, puis donne-nous l'assurance. Il n'y avait pas cette assurance, mais Dieu leur a donné. Ils ont été faibles, mais Dieu a été fort en agissant en réponse à leur prière. Donc, pour nous, c'est la même affaire, mais en Dieu, on a tout ce qu'on a besoin. C'est ce qui amène la deuxième caractéristique de ceux qui recherchent la délivrance immortelle. Non seulement ils n'acceptent pas la fausse délivrance, mais chapitre 12, versets 25 à 29, ils écoutent la bonne voie vers le bon royaume. Regardez avec moi. Chapitre 12, toujours dans l'hébreu, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots « une fois encore » indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant le royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est drôle qu'on est à l'action de grâce et dit « Montrons notre reconnaissance comment? » En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est ce qu'on fait ce matin par la foi, n'est-ce pas? On a chanté. On a loué notre Seigneur. On se rassemble dans l'amour du Seigneur, dans la liberté qui est en Christ. On montre comme ça notre reconnaissance à Dieu pour son grand salut, pour sa bonté envers nous. Mais ici, j'attire votre attention sur le fait que l'auteur de l'Épître, bon, on peut l'appeler Paul, là. Moi je pense que c'est Paul, j'ai peut-être pas raison, mais bon. Pas lui, là, un autre Paul, là. Lui, il n'est pas assez vieux, là. Il n'a pas 2000 ans. Mais il met un contraste entre le mont Sinaï, qui a déjà fait pas mal peur aux gens, au point de dire, hey, non, on ne veut plus que Dieu parle comme ça, parce que là, on a trop peur. Rappelez-vous, c'est quand c'est dans le livre d'Exode. Puis là, il parle de Dieu qui, maintenant, va encore ébranler. Fait que le destin du monde ici-bas là, est déjà prononcé, puis c'est pas beau. Okay? Si Dieu ébranle, s'il a déjà ébranlé la terre, puis là, il va ébranler les cieux, puis la terre, ça va brasser par à peu près. Okay? C'est ce que Dieu nous dit sur ce monde. Il est voué à la destruction totale. Autrement dit, pas de salut ici-bas. Pas de délivrance ici-bas. Peut-être temporaire, mais certainement pas pour longtemps. Et c'est ce que le Saint-Esprit souligne. La question importante pour nous, parce qu'il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et c'est ça ici qu'il veut préciser. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Il faut qu'on prenne garde d'écouter celui qui s'adresse à nous. J'ai pris le mot écouter, mais pour être plus précis selon le texte, disposer à l'entendre. Savez-vous ce que ça suppose? Il n'a pas pris ici, le Saint-Esprit a choisi le mot entendre. Vous savez que c'est pas pareil entendre puis écouter. Je peux entendre quelqu'un parler, mais je ne l'écoute pas. Je veux dire, j'entends des mots, mais je ne porte pas attention. Ici, le Saint-Esprit a pris le mot entendre. Je crois que selon le contexte, avec l'Épître aux Hébreux, il y avait de la persécution. Je pense qu'il y avait beaucoup de bruit dans les oreilles de ceux qui étaient du bruit, on s'entend là. Il y avait de la persécution, des troupes, tout ça. Déjà juste d'entendre la voix du Seigneur, c'était quelque chose. Puis après ça, il fallait l'écouter. Mes amis, savez-vous que, puis en passant, il y a des bruits qui peuvent être ambiants, puis il y a des bruits qui peuvent être internes. C'est pour ça que ça dit que c'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Un autre verset ce matin qui est référé sur le silence. Quelqu'un priait là-dessus, je ne me rappelle plus, on a entendu ça en tout cas. Ah oui, quand on priait, quelqu'un a cité ça. Ah oui, quand Moïse était avec Israël, il dit « Be still », en tout cas, « Arrêtez ». Oui, ça dit « Faites silence » aussi, hein? En tout cas, ça dit « Faites silence » aussi, dans l'Exode avant qu'il traverse la mer Rouge. Il est plus que jamais temps pour le peuple de Dieu de s'arrêter et savoir que l'Éternel est Dieu, qu'il domine sur les nations. Savez-vous que c'est encore le cas? C'est pas Bill Gates, c'est pas l'ONU, c'est pas Donald Trump qui domine sur les nations. Ça, c'est des marionnettes. C'est des gens que Dieu a totalement sous son contrôle. Dieu n'est pas surpris par eux, il n'est pas menacé par eux. C'est lui qui domine sur les nations. C'est le temps qu'on s'arrête et qu'on entende sa voix afin de pouvoir l'écouter. Il y a un processus. Tu sais, on peut être tout à fait agité, puis tout ça. Faut d'abord, tu t'arrêtes. OK, je l'entends, sa voix. Puis après ça, une fois que tu l'entends, là, tu peux t'arrêter encore plus, puis là, l'écouter. Voyez-vous la progression? Dieu nous interpelle pas du mont Sinaï, mais du mont du Calvaire. Puis il nous dit, j'ai instauré un royaume inébranlable. Ça parle ici d'un royaume. Vous avez lu avec moi, hein? Quand ça dit, c'est moi encore une fois, excusez, verset 28, c'est pourquoi en recevant un royaume inébranlable. Ça, c'est ce que le mont du Calvaire nous donne, le royaume de Christ, qui va être instauré bientôt. Et c'est ce que Dieu nous appelle à regarder. Il veut qu'on écoute sa voix qui nous parle de ce royaume, son royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un royaume inébranlable, immortel. Il n'y a pas de mort dans ce royaume-là. Et on est appelé à vivre par la foi à la lumière de ce royaume. Rappelez-vous la semaine passée, hein? On vit sur terre à la lumière de l'éternité. On vit comme étant dans un corps mortel, mais comme des êtres immortels. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne verra même pas la mort. Il va passer de la mort à la vie. Bang, directement. Quand on mort, ça va directement dans la présence de notre Dieu. Maintenant, la question à se poser, est-ce que tu entends sa voix? L'entendre. Puis est-ce que tu portes attention pour écouter ce qu'il a à dire? Mes amis, en ce moment, c'est ce qu'on a le plus besoin parce qu'on vient de parler de ne pas accepter la fausse rédemption, la fausse délivrance. Pour ça, il faut entendre celui qui nous offre la vraie. Il faut qu'on entende sa voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Il y en a des verts pâturages pour son peuple, mais il faut qu'on écoute sa voix qui nous dirige là. Dieu est un abri au milieu de la tempête, mais il nous conduit là quand on entend sa voix et qu'on l'écoute. Et donc, l'entendre, l'écouter, s'y plier. Écouter sa voix, même si ça ne fait pas du sens, même si ce n'est pas ce qu'on serait enclin naturellement à faire. Mes amis, c'est le grand message des prophètes. Il y en a qui se spécialisent là-dedans, là. Vous allez voir dans Amos ou dans Michée, mais connaissez-vous si je vous dis l'expression le schéma d'Israël? S-H-E-M-A. C'est un mot hébreu, là. C'est pas un schéma comme je fais un schéma, là. C'est un mot hébreu qui veut dire écoute. Écoute Israël. Ça, c'est dans Deutéronome. C'est un de leurs prophètes préférés, Moïse, qui a dit ça dans Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est le schéma direct qui dit qu'il y a un seul Dieu, c'est l'Éternel, puis qu'on est appelé à donner notre plein dévouement à ce Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut que son peuple entende. Écoute, Israël, c'est moi, Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Puis je veux tout votre dévouement. OK? Et il y a ça dans Deutéronome, mais les prophètes répètent ça constamment. Et même que Amos, si vous regardez dans Amos 3.1, c'est comme s'il veut ramener Israël à cette base-là du schéma d'Israël. Il dit, écoute, là, c'est bien plus long, longtemps après, mais il veut les ramener au point qu'ils ont besoin d'écouter la voix de Dieu. C'est là qu'est la délivrance. C'est le plaidoyer des prophètes. Écoute, Israël, ton Dieu. C'est encore le message qu'il faut qu'il retentisse aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Parce que Dieu s'adresse d'abord à son peuple. Évidemment qu'il s'adresse à toutes les nations, mais aux nations, il leur adresse « Repentez-vous pour que vous soyez sauvés pour recevoir mon Fils. » Mais à son peuple, il s'adresse d'une manière différente parce qu'on a déjà reçu sa délivrance, on a déjà reçu son Fils, mais Dieu veut travailler à travers nous autres. Il y a un autre message pour nous autres. Mais vous savez, au bout du compte, ça revient au même, c'est un message de délivrance. Donc, j'amène ce verset-là aujourd'hui. Avec ce qu'on vient de dire. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que vous soyez ici, vous n'êtes pas encore sauvé. Et que vous n'êtes pas encore réconcilié par le sang de la croix. Vous entendez, je l'ai dit, tout le monde fait longtemps qu'il vient ici, vous entendez l'évangile, vous l'entendez par vos parents, vous l'entendez. N'endurcissez pas votre cœur. Et en tant qu'enfant de Dieu, mes amis, la pire place où est-ce qu'on peut se retrouver, c'est où est-ce qu'on peut lire la Bible, entendre quelqu'un prêcher semaine après semaine, entendre nos parents, entendre les gens qui nous parlent du Seigneur. On entend, mais on n'écoute plus. C'est la pire chose qui ne peut pas nous arriver. C'est un endurcissement spirituel et c'est la voie descendante vers la destruction. Maintenant, ça m'amène au troisième point, tellement important ce matin. Ceux qui cherchent la délivrance immortelle sont caractérisés par le fait qu'ils n'acceptent pas d'autres délivrances, celles d'ici-bas. Ils sont caractérisés par le fait qu'ils entendent, ils écoutent la voix qui leur mène vers le bon royaume. Mais la troisième caractéristique ce matin, c'est au chapitre 13, vers la conclusion du livre d'Hébreux. Chapitre 13, verset 10, mais spécialement jusqu'à 13. Ils sortent du camp afin d'aller à Jésus-Christ. Regardez ici à partir du verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Ça, c'est toute l'imagerie. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça. Vous irez voir dans l'Ancien Testament, c'est vraiment basé sur toutes les images qui étaient dans l'Ancien Testament, mais surtout, regardez verset 13. « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Savez-vous, ici, ça l'abonde dans le sens de ce que j'ai dit depuis le début. Si j'accepte pas de délivrance ici-bas, qu'est-ce que j'ai à faire ici-bas? On est appelé à sortir de ce monde. N'est-ce pas ce qu'on est une assemblée appelée hors de... Pas pour aller vivre sur, comme des moines tibétains sur le mont Everest, là. De toute façon, on ne pense pas qu'on vivrait là bien longtemps, là. On aurait le bout du nez plutôt gelé, là, mais... Mais quand ça dit ici, sortez, c'est... Faites pas votre habitation ici dans le monde. Mettez pas vos racines profondes ici dans le monde. Sortez! Puis aller à Christ, quand ça dit sortir du camp, dans le contexte, c'est le camp du judaïsme, le camp de la religion établie qui était devenue, malheureusement, c'était la religion des pères qui étaient passés à côté de Christ. Donc là, c'était rendu vain. Parce que toute religion qui passe à côté de Christ est vaine. Même si les fondements peuvent être bons. Parce que le fondement du judaïsme est excellent. On s'en sert. C'est l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Mais on passe à côté de Jésus-Christ, donc ça ne leur sert plus à rien de reste. Il faut juste en sortir. Pourquoi? Parce que c'est une fausse délivrance que ça l'offre. Mais nous, on est appelés aussi à sortir de tout ce que le monde veut nous offrir comme délivrance. Parce que c'est vain, il n'y en a pas de délivrance. Et on est appelés à aller à Christ. Voyez-vous comment il y a les deux éléments dans le verset 13? Sortons pour aller à lui. On ne veut juste sortir et s'en aller, on sait plutôt ce qu'on va. Non, on sort parce qu'on va à Christ. On n'a pas le choix de sortir parce qu'il faut qu'on ait un Christ. Puis si on veut aller à Christ, il faut qu'on sorte. Oui, les deux sont mutuellement exclusifs. Je ne peux pas avoir les pieds dans le monde puis vivre pour Christ en même temps. Je ne peux pas avoir la délivrance du monde puis en même temps celle de Christ. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne en ce moment. La délivrance vient de l'Éternel. Il faut qu'on aille à lui. C'est sa délivrance qu'on cherche. Il n'y a pas de délivrance ici-bas. Donc, on sort à cause qu'on n'accepte pas la délivrance d'ici-bas, à cause qu'on écoute la voix de Dieu qui nous appelle à lui, on sort puis on va à lui. On sort de ce système, cette pensée, cette pression du monde. En passant, l'Église, la petite Église à qui est écrit l'Épître aux Hébreux, était dans un contexte de persécution, d'ostracisation. Il était mis de côté, ridiculisé, parce qu'il était chrétien. Ça ressemble de plus en plus à ce que nous, on est en train de vivre, n'est-ce pas? Mais pourquoi qu'ils sortent de même, puis qu'ils vont à Christ? Regardez le verset 14. « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Voyez-vous comment on revient à l'idée de chercher? On cherche la délivrance qui vient de Dieu. On cherche les promesses de Dieu. C'est Dieu qu'on cherche. Puis c'est pas dans la délivrance qui est ici-bas qu'on va le trouver. Autrement dit, par la foi, on ne reste pas pris dans le piège de ce monde, mais on cherche ce qui est meilleur. On cherche une cité permanente ou immortelle, là où il n'y a pas de mort, une cité qui n'est pas corrompue par la mort et le péché. Ça, mes amis, ce n'est pas ici-bas. C'est juste auprès de Dieu qu'on a ça. Une cité où la mort n'a pas son effet destructeur, avilissant, débilitant. C'est ça que ça fait, la mort. Pour ça que le monde est comme ça, c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pour ça que le monde est comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis nous, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche cette cité permanente, cette cité immortelle, là où il n'y a pas de mort. Et je vous rappelle que cette petite église était minuscule dans un océan de judaïsme et de paganisme. Je veux dire, il était rien, là. Je veux dire, il était... Tu sais, quand tu parles d'insignifiant, là, les gens pouvaient dire... Pff, puis en passant, ça m'a affaire, j'écoutais le film d'hier, des gens dans un appartement étaient peut-être une dizaine. Dans une ville de millions de personnes, c'est quoi? Mais Dieu aime ça, utiliser les choses faibles et mépriser de ce monde pour confondre des sages. Puis en passant, c'est comme ça que Dieu a vraiment eu une influence sur le monde, avec les chrétiens de cette époque-là, dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Ça m'amène à ce point important. Quand on parle de fausse délivrance. Je vais vous en donner une qui est offerte aux chrétiens en ce moment, puis voici à peu près à quoi ça ressemble comme raisonnement. Ben, il faut être un bon témoignage. Donc, il faut qu'on fasse tout ce qui nous est dit. Traduction, il faut qu'on cède à la pression du monde, donc il faut qu'on prenne la délivrance que le monde nous offre. J'aimerais vous dire que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la chrétienté historique. Parce que l'apport de ça, sur l'idée du témoignage, le témoignage de qui, puis le témoignage pour qui. Ce que le monde a besoin de voir, c'est pas mon témoignage à moi. Ils ont besoin de voir, témoin là, ok, c'est le même mot pour martyr, ceux qui sont morts pour Christ là, c'est Christ qui était mis de l'avant, les gens disent, wow, ça c'est un chrétien, il appartient. Qui était mis en évidence dans la mort de ces personnes-là? Puis vous regardez un film comme celui que j'ai écouté hier, qui est mis en évidence? C'est pas la personne, c'est Christ pour qui il vivait. Et c'est vraiment, it's very tricky, comme dirait Bounikou. C'est vraiment pernicieux, parce que la délivrance qui est offerte, ça paraît bien, mais l'idée, quand on cherche la meilleure délivrance, celle qui est immortelle, on ne fait pas de cas de notre vie. Il y a un exemple là-dedans avec un nouveau converti russe. Monsieur Boombrant avait un amour spécial pour les Russes. C'est drôle, c'est même Russe qui avait amené le communisme. Il dit « J'aime pas le communisme, mais j'aime les Russes. » Vous savez quoi? Il leur partageait l'Évangile, puis ces Russes-là qui étaient... élevé dans une culture totalement sans Dieu, avait une soif de Dieu, puis il écoutait quand il prêchait l'Évangile. Fait qu'il a pu amener beaucoup de Russes au Seigneur. Puis un de ceux-là s'appelait Petro. Puis, ce monsieur-là, il venait juste d'être converti. Puis là, monsieur Wombrandt, il donne une valise avec des bibles. Puis,
Le but, c'était des bibles camouflées, là. Ça avait l'air un livre de marxisme. Puis c'était tout ça sur dessus, mais dans le milieu, c'était une bible. Pas fou, hein? Puis là, il fallait qu'il rentre ça clandestinement en Russie. OK, smuggle. Fait que lui, il prenait le train, il était en Roumanie, parce que c'était un soldat russe, mais qui était déployé en Roumanie. Et là, il fallait qu'il s'en aille en Russie, puis il ramenait ça. C'est un nouveau converti, là. Il venait de le baptiser, ça fait pas longtemps, dans le bain, chez eux, dans l'appartement. Puis là, M. Wimbrandt, il dit à Petro, il dit, tu sais que là, tu peux payer le prix de ta vie pour ce que tu fais. Puis la réponse de cet homme-là, il dit, si c'était ma vie, j'aurais le choix. Mais c'est pas ma vie. Puis il est allé, puis c'est quoi? M. Wimbrandt n'en a pas entendu parler de ce monsieur-là. Puis je ne sais pas s'il est allé voir directement le Seigneur ou s'il était encore vivant en prison, mais s'il était fait attraper, ça, il savait. Mais il a accompli sa course. Il n'a pas fait un cas de sa vie. Puis c'est quoi? Les Bibles, on ne sait pas comment ils ont fini, mais c'est pas grave. Ça, c'est le témoignage de Jésus-Christ, mes amis. C'est ça que le monde a besoin de voir. Les soldats qui voyaient ça, ils étaient bouche bée après.
Le témoignage de Christ, ça ne fait pas de sens dans ce monde. M. Wimbrandt, il priait dans sa cellule, puis il n'y avait pas le droit. Il y avait un peephole, un petit trou, puis quand que le soldat voyait le garde, quand il voyait qu'il était en train de prier, puis il priait à tous les jours, puis il ne se cachait pas, il se priait, tu vois, comme ça, puis... Là, il battait. Ah, tu es en train de prier. Donc là, à un moment donné, ça fait longtemps que ça dure, cette affaire-là. M. Wimbrandt a passé 14 ans en prison. Puis, là, le soldat, il rentre dedans. Il dit, tu es encore en train de prier? Voyons donc, tu vois bien que ça ne sert à rien. Il est où ton Dieu? Tu es en prison? Tu ne vois pas ta femme? Tu ne vois pas ton fils? Qu'est-ce qui te reste à prier? Il n'y arrive à rien dans ta vie. Il dit, je prie pour toi. Le monsieur n'avait plus rien à dire. Ça, c'est l'agression de l'amour. Ça, c'est l'esprit de Christ. C'est ça le témoignage qu'on est appelé à donner. Il n'essayait pas de sortir de la prison. Il n'essayait même pas de ne pas être battu. Il n'avait pas le droit de prêcher non plus, parce qu'à un moment donné, il était plus dans une cellule. Puis là, il prêchait. Puis encore là, « Ah, t'es en train de prêcher! » Fait que là, celui qui prêchait, il le prenait puis il allait le battre. Il rentre après. Bon, il dit, je t'ai rendu où, donc? Ah oui, ceux qui... Puis il prend la béatitude, ceux qui sont persécutés pour... Heureux, ceux qui sont persécutés pour mon nom. Mes amis, ça, c'est l'Esprit de Christ. Ça, c'est la délivrance de Dieu. Mais c'est pas la délivrance d'ici-bas. Ils ont accepté les coups. Ils n'ont pas accepté la délivrance d'ici-bas parce que Christ était plus précieux. C'est ça la pensée de mon message aujourd'hui. Rechercher cette délivrance, c'est ça le témoignage qu'on a besoin de voir. Mes amis, excusez-moi, mais on ne doit pas accepter, c'est une tromperie de dire oh, on va être un bon témoignage en faisant ce que le monde nous dit de faire. Puis on n'est pas rebelle au monde dans le sens qu'on ne veut rien savoir, mais on ne peut pas obéir aux hommes si on obéit à Dieu. C'est non négociable. Je dirais, bon, retournez dans Daniel 3, c'était non négociable. Daniel 3, Daniel 6. Ah, c'est des petites choses. Juste prier, c'est pas grave. Ah non. Il était prêt à mourir pour ça. C'était la fosse au lion. C'était la fournaise ardente. Ça, c'est le témoignage de Christ qui vit en eux. C'est ça que le monde a besoin de voir. C'est ça qui a gagné ce monde, savez-vous? C'est pas quand on se compromet. Quelle phrase, hein? Chapitre 11, verset 35. Ils n'acceptèrent point de délivrance. Pourquoi? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils n'ont pas accepté ce que le monde offrait. Tu as vu, la semaine passée, on a parlé de vivre à la lumière de l'éternité. Vivre sur terre à la lumière de l'éternité. Sneak peek sur la semaine prochaine, Dieu voulant, on va parler de combattre par la foi pour notre roi immortel, puis l'autre après, Dieu voulant, ça va être nourrir notre attente de l'immortalité. Tout ça, mes amis, là, c'est l'idée de vivre avec les yeux sur la délivrance éternelle, sur ce que Dieu peut faire. Mes amis, ça ne sert à rien de chercher des délivrances ici-bas, il n'y en a pas. S'il y en a, sont temporaires, sont trompeuses, ça ne dure pas. Ils mènent à l'esclavage. La Bible dit que par la peur, ceux qui sont toute leur vie retenus dans l'esclavage par Satan, ils n'ont aucune délivrance. Ils la recherchent, et ce qu'ils font désespérément, puis ils ne le trouvent jamais. Ils cherchent une délivrance qui fuit loin d'eux autres. Il y en a un seul qui donne la délivrance, puis c'est Dieu. Puis c'est par la foi qu'on l'accepte, même si ça ne fait pas de bon sens, même s'il faut qu'on meure pour cette délivrance. Meure physiquement. Mes amis, on n'a jamais parlé de ça ici en Occident. On n'est pas habitué. Probablement que ça serait un petit message bonbon, tata, si on était en Corée du Nord, si on était au Pakistan, au Nigeria. Les autres, c'est leur vie, ça. C'est normal. Moi, je prêche comme un petit enfant d'école qui vient d'arriver, qui apprend son ABC, puis c'est 1, 2, 3. Mais Dieu est avec nous autres, puis il faut qu'on garde les yeux sur lui. Il ne faut pas qu'on se décourage. Maintenant, je vais vous donner une petite phrase ici avant de conclure avec le verset 15. Vous savez, quand ça dit « La victoire sur le monde, c'est votre foi. » N'est-ce pas une vraie promesse merveilleuse de la parole de Dieu? Mes amis, on ne peut pas avoir la victoire de la foi si on ne marche pas par la foi. Il faut qu'on marche par la foi si on veut la victoire de la foi. C'est ça l'idée. Si on veut la délivrance de la foi, il faut qu'on marche par la foi. OK? Maintenant, je termine avec le verset 15. Chapitre 13, verset 15. C'est l'action de grâce. Je vous mets mon action de grâce twist à la fin du message. Je n'ai pas préparé un message avec le but que ce soit l'action de grâce, mais ça va bien de toute façon parce que c'est dans le texte. Mais regardez verset 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » C'est une bonne façon de terminer notre message ce matin parce que ça porte notre attention au bon endroit. Sur celui qui est digne de toute louange. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi? Savez-vous qu'est-ce qu'on va passer l'éternité à faire? À louer Dieu pour son grand salut, pour qui il est. Puis ça ne sera pas plate. On ne sera pas comme dans les... Tu sais, il y a quelqu'un, je ne sais pas quel artiste, qui a fait là, un ange qui s'ennuie sur son petit... Vous avez sûrement déjà vu ça, là. C'est dans la culture populaire, là. Ça ne sera pas ennuyant au ciel. En fait, on ne peut même pas imaginer comment c'est comme une plénitude de joie. C'est-à-dire, il y a d'abondante joie en ta présence. Je veux dire, on ne peut même pas comprendre. Dieu n'en parle pas tant que ça parce qu'on ne pourrait pas comprendre. Mais voici ce que je veux amener. C'est-à-dire, un sacrifice de louange. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est pas naturel. C'est pas dans notre nature humaine de louer Dieu. Dans notre nature humaine, c'est plus de murmurer. Hein? Quand on voit Israël, c'est un peu comme un portrait du cœur humain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent. Tout le temps. Il y avait des choses, Dieu était bon, Dieu délivrait, ils murmuraient. C'est un miroir pour montrer comment qu'on est, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas le murmuré dans les derniers mois? Oh, mon ami, plus que j'aimerais l'admettre. On bronche tout de différentes manières. Mais ici, ça dit, offrons à Dieu un sacrifice de louange, le louer de cœur. Puis on l'a chanté tantôt. Ben, on l'a écouté. Dieu a mis un chant nouveau dans notre cœur. En passant, le monde voudrait faire taire ce chant dans notre cœur. Il dit, chantez pas. Comment qu'on pourrait pas chanter quand Dieu a mis un chant dans notre cœur? Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est notre vie. Christ est ma vie, puis je peux pas faire autrement que de chanter. Puis si vous m'interdisez, je pourrais aller en prison parce que mon Dieu est digne de louange et je veux y offrir le sacrifice de lèvres qui confesse son nom. Maintenant, remarquez comment ça se manifeste, ce sacrifice, le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire, des lèvres qui confessent Christ, sa délivrance. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on a à parler. C'est ce qui est sur nos lèvres parce que c'est ce qui est dans nos cœurs. La bouche parle de l'abondance du cœur. Ou pour le dire autrement, lorsque la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse et qu'on s'entretient les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, qu'est-ce qui arrive après? On l'a lu aussi tantôt. On est reconnaissant. C'est ça le chant du cœur. C'est ça... La parole de Dieu qui habite en nous dans toute sa richesse, ça cultive la reconnaissance, ce sacrifice de louange, de lèvres qui confessent son nom. Et c'est ça que le monde a besoin d'entendre. C'est ça que quand nos cœurs, c'est-à-dire, étant toujours prêt à défendre l'espérance qui est en nous. Les héros de la foi du chapitre 11 ont laissé leur trace parce qu'ils ont fait confiance à leur Dieu pour obtenir sa délivrance. Donc voici comment je vais terminer ce matin. Mon appel par rapport au temps de prière qu'on va prendre maintenant, je vous invite simplement à verbaliser, à exprimer cette recherche de la délivrance de Dieu. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, c'est dans votre cœur. C'est Dieu qui a mis ça en vous. C'est la grâce de Dieu. Vous recherchez quelque chose qui n'est pas de ce monde. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu encore, Dieu, dans sa grâce, lui, court après vous. Est-ce que vous acceptez la délivrance qu'il vous donne, pas celle ici-bas sur terre, la délivrance qui vient de Dieu? Donc, en réponse au message ce matin, exprimons le désir de notre cœur. Dieu, c'est ta délivrance que je veux. Puis à cause de ça, je ne vais pas accepter celle qui vient d'ici-bas. Je ne vais pas accepter la contrefaçon. Je ne vais pas accepter ce qui est temporaire. Ah, parce que Dieu, je veux entendre ta voix qui me dirige vers toi. Je suis prêt à sortir du camp pour aller à Christ parce qu'il est plus précieux que toute autre chose. On va prier. On te remercie, Seigneur, que tu es le Dieu qui donne la vraie délivrance, la délivrance immortelle, la délivrance parfaite. Ah, et Seigneur, on est dans un temps de grande tentation, même d'apostasie, où est-ce que beaucoup acceptent la fausse délivrance. Et Seigneur, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On te demande que tu puisses nous aider à veiller et prier pour ne pas tomber dans cette tentation qui est réelle, qui est même légitime. On parle ici, des fois c'est même une question par rapport à notre travail, à nos relations familiales, il y a tellement d'implications à ça. Mais c'est ce que ceux qu'on a considérés ce matin ont accepté de payer comme prix. Il y a un prix à la foi. Il y a un prix à rechercher ce qui n'est pas de ce monde. Et Seigneur, vois et entends la menace qui gronde sur ton Église. Et donne-nous simplement d'avoir cette assurance indéflectible, d'être rempli de ton esprit, qu'il n'y ait pas de place pour rien d'autre, que ta parole habite en nous dans toute sa richesse. Et que réellement on puisse s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, étant reconnaissant. On crie à toi, Seigneur, on invoque ta grâce et ton secours pour ta gloire, pour que tu manifestes Christ, notre précieux Sauveur, à ce monde perdu qui a tellement besoin de témoins de lui. On te prie en son nom. Amen. Amen.